Et oui, Jean-Claude Jaffé est effectivement chroniqueur à Radio Présence. Il nous donne ses coups de cœur littéraires. Alors, dans une autre vie, il était directeur diocésain de l'enseignement catholique. C'était dans le Gers. Et aujourd'hui, Jean-Claude Jaffé écrit des livres. Son dernier s'intitule « Toulouse, des figures lumineuses ». C'est aux éditions Paroles et Silence. Nous allons le parcourir ensemble. Bonjour Jean-Claude Jaffé.
Bonjour Isabelle et bonjour amis auditeurs et plus particulièrement tous ceux qui me suivent dans ma chronique le lundi matin.
Voilà, lundi matin. Merci d'être avec nous ce mardi en direct, Jean-Claude. Alors, ce livre, 170 pages, 40 portraits de figures lumineuses. Comment est-il né ?
Eh bien, c'est un projet que j'avais, qui trottait dans ma tête depuis pas mal de temps. Je voulais brosser quelques portraits de figures qui m'avaient touché. Il se trouve que j'ai rencontré mon collègue Mathieu Arnal,
ah oui,
qui avait la même idée.
C'est Toulousains qui ont fait l'histoire.
Et nous avons eu à un moment donné l'idée de faire un ouvrage en commun. Mais en fait, Mathieu était davantage intéressé par l'histoire. Comme vous l'avez dit, son livre s'appelle « Ces Toulousains qui ont fait l'histoire ». C'est publié aux éditions Papillon Rouge.
Ce sont
des récits, c'est plutôt c'est assez romancé. Tandis que mon idée n'était pas tout à fait la même, mon style n'était pas tout à fait le même. Si je peux faire une comparaison, passez-moi du peu. Hein, c'est plutôt Jean de la Bruyère avec ses caractères.
Avec ses caractères.
Maxime, ah, des oui. Portraits qui sont courts et concis. Donc c'est un autre genre. Et je remercie les éditions Paroles et Silence qui m'ont fait confiance dans ce type d'expression.
Effectivement, pour vous, hein, pour ces figures lumineuses, ce sont plutôt des fioretti, si on peut dire, hein, des que l'on picore comme ça au fil des pages, et on va d'ailleurs les picorer ensemble. Une figure lumineuse, ça serait quoi ? Quelle définition vous donneriez ? C'était quoi le critère pour figurer dans votre livre, Jean-Claude ?
Eh bien, lumineux, ce sont des figures qui m'ont touché. J'ai essayé de... Alors, il y a un choix. Bon, il est personnel. D'ailleurs, le titre au début, c'était « Toulouse, mes figures personnelles ». C'est un peu prétentieux. Mais c'est vrai qu'il y a un caractère... C'est une anthologie, en quelque sorte, mais c'est arbitraire.
Hein,
c'est,
ouais.
Ça, c'est mon excuse. C'est le côté personnel. Ce sont des personnes qui m'ont touché. Alors, pour chacune d'elles, au fur et à mesure de mes lectures, de mes études, j'ai pris des notes, j'ai écrit, etc. Et puis, à un moment donné, il faut fermer les livres, mettre les notes de côté et se dire, bon sang, cette personne-là, finalement, dans sa vie, qu'est-ce qu'elle a apporté, qu'est-ce qu'elle a donné, voilà. En concision et en toute simplicité d'essayer de voir en quoi ces personnes ont illuminé plus particulièrement la ville de Toulouse.
Mais, et oui, et il en reste des traces hein, pour certaines.
Les âmes de chacun.
Et oui, il en reste des traces pour certaines. Soit il y a des noms de roues, soit de rues. Il y a les vitraux, oui. Les vitraux d'Henri Guérin, les statues de la famille Giscard que l'on retrouve également dans
exactement.
Les églises de Toulouse. Alors, il y a des figures spirituelles, mais pas uniquement, des figures d'hier et d'aujourd'hui. La plus ancienne, sans surprise, c'est Saint-Urnin. Mais alors, honneur aux dames, s'il vous plaît, Jean-Claude Jaffé, j'aimerais que vous nous présentiez une sainte assez peu connue, Sainte Nathalie de Toulouse, dont le culte était florissant jusqu'à ce que la fureur révolutionnaire vienne raser son couvent de Notre-Dame de la Merci, écrivez-vous. Qui était-elle, cette sainte Nathalie ?
Alors, Nathalie, c'est quand même, pour la plupart des gens, une figure oubliée. Et pourtant, à l'époque, avant même celui qu'on appelle le saint de Toulouse, le père Marie-Antoine de Lavaur, on avait la sainte de Toulouse. C'était sainte Nathalie. Elle faisait partie de ce qu'on appelait les trinitaires. On a d'ailleurs la place de la Trinité à Toulouse, qui rappelle cela, où les mercédaires, la merci, c'était ceux qui rachetaient les captifs et à Jérusalem, etc. Et ces personnes, cet ordre religieux, essentiellement, pouvait aller jusqu'à donner sa vie, c'était en échange. Voilà. C'est une grande figure, et il y a quelques figures féminines dans mon ouvrage. J'aimerais dire un petit mot, si vous le permettez, sur Marie-Louise Dissa.
Ah oui,
qui
changement
est,
d'époque, là.
Peu connu, son nom est peu connu, et pourtant, c'est une figure, un sacré caractère. Si vous allez à l'église Saint-Jérôme, que les Toulousains connaissent bien, même si elle est cachée, un peu cachée, mais bien fréquentée, il y a deux entrées. Si vous arrivez par la rue de la Pomme, exactement au numéro 40, c'est juste à côté de l'église, il y avait un petit magasin, il y a toujours d'ailleurs un petit magasin, qui vendait des frivolités, comme on disait à l'époque, des frivolités féminines. C'est un petit magasin qui s'appelait La Poupée Moderne. Et cette couturière qui était là a été une grande figure de la résistance. Il y a le lycée professionnel Françoise, qui lui rend hommage, puisque Françoise, c'était son pseudonyme de résistance. Elle a sauvé des centaines, peut-être des milliers, d'aviateurs, des alliés. Et elle était celle qui se déguisait sous toute forme pour convoyer ces aviateurs qu'elle avait recueillis, soit à la gare Matabiau, soit même dans les Pyrénées. Voilà. C'était une femme de caractère, une femme, elle fumait, elle avait son langage, etc. Elle se déguisait beaucoup, et les Allemands la prenaient pour une foufolle. Voilà. Et grâce à cela, elle a sauvé énormément de personnes.
Et voilà, c'était Marie-Louise Dissard. Il y a beaucoup de bâtisseurs également dans votre livre. Il y en a un notamment qui a donné son nom à un canal. Vous voyez de qui je veux parler, je pense, Jean-Claude.
Loménie de Brienne. Hein, quelle figure ! Figurez-vous, c'était l'archevêque de Toulouse. Il était cardinal et il ne croyait pas en Dieu. C'est extraordinaire pour l'époque.
Et oui,
mais
incroyable.
C'était, comme vous l'avez dit, un bâtisseur. C'est quelqu'un qui a été un bienfaiteur pour la ville de Toulouse. Si vous allez à la bibliothèque du patrimoine, rue du Périgord, il y a un magnifique portrait de Loménie de Brienne. C'est lui qui a eu l'idée de la construction de cette bibliothèque, qui se trouvait sur l'emplacement du couvent des Carmélites, dont il ne reste plus d'ailleurs que la chapelle des Carmélites, qui s'appelle pour nous la chapelle Sixtine de Toulouse. Voilà, ce Loménie de Brienne, outre le canal, on lui doit la réfection des berges de la Garonne. Il ne faut pas oublier ce qui a frappé l'esprit des Toulousains, la crue du 17 septembre 1772, où il y a eu plus de 1000 morts. Prenons l'exemple de l'intérieur de l'église de Saint-Nicolas, l'eau arrivait à 9,47 m. Ça a été un traumatisme, les ponts ont été détruits. Le président de la République à l'époque, le général MacMahon, est venu, il a constaté, et il a eu cette phrase devenue célèbre, « Que d'eau, que d'eau ». Voilà. Donc si les Toulousains, à l'heure actuelle, sont à l'abri des inondations, nous le devons à Loménie de Brienne.
Alors, il y a une autre invention dont vous faites état.
Un point sur Loménie de Brienne, un point courageux de sa part, je trouve. Les chrétiens, de tout temps, ont voulu se rapprocher le plus près de Dieu, et jusque dans leur mort. Et donc, on a des cimetières qui sont tout autour des églises, dans chacune des paroisses. Parfois même, quand on peut être enterré dans l'église, c'est encore mieux. Certains ont pu en bénéficier. Mais là, il y avait les paroisses du Thor, de Saint-Étienne, etc., qui avaient leur petit cimetière à l'époque. Et l'Homélie de Brienne...
Il y a beaucoup à dire sur l'Homélie de Brienne, mais il y a beaucoup d'autres figures dans votre livre. Hein, Albert Bedos, Michel Bedos, Michel Dagra, Michel Saran même, le grand chef. Oui. C'est difficile de tous les citer. C'est vraiment un livre qui nous met en bouche, un livre à picorer. Est-ce qu'au moment de rendre votre copie, vous vous êtes dit « mince, j'ai oublié tel ou tel, il faudra peut-être faire un autre livre ».
Je ne demanderai pas mieux. Et j'en ai d'autres figures en tête, bien entendu.
Et d'autres projets peut-être aussi.
Tout à fait. J'ai un projet qui me tient à cœur. J'ai publié en 2013 aux éditions Privas Toulouse, le patrimoine révélé, qui a été épuisé en 18 mois. Mais je n'ai pas été très satisfait de cette édition. Elle était assez bien réussie, mais c'était une commande et les photos m'ont été imposées. Les photos, elles étaient très belles, hein. Artistique, Arnaud Spani est un photographe de talent. Mais mon but, c'était de présenter une église dans son intégralité. Voilà. J'ai essayé à l'époque de présenter le patrimoine religieux de Toulouse sous tous ses aspects. J'ai essayé d'être un peu exhaustif, on n'avait pas été jusqu'à présent, sauf Jules de la Rondelle.
On aura l'occasion d'en reparler, Jean-Claude, je pense. Hein.
Pardon ?
On aura l'occasion d'en reparler de ce projet. Pour le moment, je voudrais tout de même attirer l'attention des auditeurs sur ce petit livre « Toulouse, des figures lumineuses ». C'est aux éditions Paroles et Silence. Plein de petites... grande figure, mais facile à lire. Hein. Une petite page par-ci, une petite page par-là, pour se remettre en tête tous ceux qui ont participé à faire briller Toulouse, bien au-delà d'ailleurs des frontières de la métropole. Un grand merci, Jean-Claude.
Merci à vous, Isabelle, et merci aux éditeurs d'être fidèles.